Retrouvez l'Instant Mickey, la série de podcasts des éditions John Libé, réalisée avec le soutien des laboratoires Galapagos. Dans cet épisode, le docteur Ludovic Caillot, gastro-entérologue au CHU de Nîmes, fait le point sur les molécules sélectives.
Je suis Ludovic Caillot, gastro-entérologue et praticien hospitalier au CHU de Nîmes, où je m'occupe particulièrement des patients porteurs d'une Mickey. Et je suis aussi membre du GTN. Je suis ravi de vous proposer aujourd'hui ce podcast intitulé « La famille des molécules sélectives s'agrandit ». Je débuterai par vous expliquer le mécanisme d'action, puis vous présenterai les différentes molécules. En préambule, je tiens à signaler que par souci d'indépendance, nous ne pourrons citer le nom commercial des molécules ni leur DCI. J'espère malgré cela être le plus clair possible et que cela ne pénalisera pas trop la compréhension du sujet que nous allons aborder ensemble. Comme vous le savez, le champ thérapeutique dans les Mickey s'est considérablement agrandi ces 10 dernières années. Le temps où nous disposions de seulement 2 entités NF-alpha nous paraît loin maintenant. Et ce sont des molécules dites petites, car avec un poids moléculaire de moins de 1000 Dalton, qui ont étoffé notre arsenal thérapeutique depuis peu. On retrouve parmi ces molécules des modulateurs de la sphingosine 1-phosphate, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, des molécules dites sélectives, qui vont donc inhiber sélectivement la famille des januskinases, ou famille des JAK. Pour bien comprendre, nous allons maintenant évoquer le mécanisme d'action de ces dernières. La voie JAK-STAT est impliquée dans la pathogénie des Mickey. Elle est essentielle à la signalisation intracellulaire provenant d'une cinquantaine de ligands, les cytokines, en particulier les interleukines et les interférons, qui se lient aux récepteurs cytokiniques membranaires. Vous le savez, le développement d'une Mickey implique une réponse immunitaire aberrante vis-à-vis de la flore intestinale, entraînant une inflammation muqueuse et une destruction tissulaire. La voie JAK-STAT, par son caractère redondant et ubiquitaire, est un élément central dans la modulation de la réponse immunitaire, notamment au cours des Mickey. Que ce soit la réponse immunitaire T, mais aussi la réponse immunitaire innée. Les études ont montré que la voie de signalisation JAK-STAT est impliquée à différents niveaux dans cette réponse immunitaire dysfonctionnelle des Mickey, comme l'hyperactivation des lymphocytes TH2 dans la maladie de Crohn ou la différenciation des CD4 naïfs vers des lymphocytes TH2 dans la RCH. La famille des protéines JAK comprend 4 membres, JAK1, JAK2, JAK3 et TIC2. Nous verrons par la suite que les molécules sélectives qui ont été développées récemment ciblent plus ou moins sélectivement un ou plusieurs de ces membres. La famille des protéines STAT comprend 7 membres, STAT1 à 4, STAT5A, 5B et STAT6. L'activation et le niveau d'expression de STAT3 sont corrélés à l'activité de la maladie chez les patients atteints de Mickey. STAT3 est essentiel au maintien de l'homéostasie intestinale et de la barrière épithéliale et a un rôle protecteur contre l'inflammation dans la muqueuse. Attention, il a été montré que l'inhibition d'une seule protéine JAK ou STAT pouvait être suppléée par l'activation d'autres JAK, d'autres STAT compensatrices, ce qui compromet la spécificité des inhibiteurs des JAK. De plus, le fonctionnement de STAT3 peut avoir des rôles opposés selon le type de cellule dans laquelle elle s'exprime. Ainsi, l'avantage théorique des traitements ciblant les JAK par rapport aux traitements anticytokiniques classiques est de cibler l'action de plusieurs cytokines simultanément. Mais il faut savoir que, petit 1, l'inhibition pharmacologique des STAT est plus difficile à obtenir que celle des JAK. Petit 2, cibler la voie JAK-STAT était un défi pharmacologique au vu de la complexité de cette voie de signalisation, rendant donc peu lisible le mécanisme d'action précis de ces molécules ciblant les JAK, sans occulter qu'il faut prédire les potentiels effets secondaires de ces traitements. Enfin, il faut savoir que le type de protéine JAK inhibée définit le niveau de sélectivité de chaque inhibiteur et pourrait expliquer les différences d'efficacité et de tolérance entre les molécules. Il est important de rappeler que plus la dose administrée est élevée, moins la molécule sera sélective. Pour comprendre le fort intérêt que porte la recherche dans le développement de ces molécules, il faut souligner que ces molécules sélectives ont des avantages certains. Prise orale, court délai d'action, demi-vie courte, élimination rapide, meilleure flexibilité, absence d'immunogénicité sans nécessité d'y associer un immunosuppresseur. Il faut donc cependant s'assurer d'une bonne observance pour rendre optimale leur utilisation. Je vais vous présenter maintenant les petites molécules orales disponibles ou allant l'être. La première molécule, qui fut disponible dans la RCH, et que vous connaissez tous, est validée par différentes études cliniques en dermatologie, en rhumatologie et en gastroentérologie, a un effet inhibiteur sur les JAK, principalement JAK1 et JAK3, et dans une moindre mesure, JAK2 et TIC2. Ce traitement est autorisé par les agences européennes et américaines du médicament dans la RCH, et comme vous le savez, il est remboursé par la Sécurité sociale en France depuis 2019. Il a une demi-vie de 3 heures. Chronologiquement, ce traitement a d'abord été développé dans la polyarthrite rhumatoïde, puis étendu à la spondylarthrite ankylosante, au rhumatisme psoriasique, puis à la polyarthrite juvénile. En ce qui concerne la RCH, les essais de phase 2 ont montré un bénéfice clinique en termes de taux de réponse à la 8e semaine, permettant de poursuivre le développement avec des essais de phase 3 octave. Ils ont également montré l'efficacité de ce traitement pour traiter la RCH réfractaire. À noter que les patients porteurs d'une RCH sévère ou avec une rectite seule étaient exclus de ces études. Dans la maladie de Crohn, à l'inverse, les essais de phase 2 n'ont pas mis en évidence de différence entre ce traitement et le placebo. Ces résultats, inattendus, difficilement explicables, sont peut-être en lien avec un mauvais design de l'essai car des critères secondaires et une méta-analyse en 2019, incluant tous les essais dans les MIKI avec ce traitement, concluaient à une efficacité dans la maladie de Crohn. Ce traitement a donc eu l'AMM en France en 2018 et le remboursement en 2019 chez les patients porteurs d'une RCH en échec d'au moins une biothérapie. Il faut rappeler que nous n'avons pas d'essai comparatif en face-face avec les biothérapies à l'heure actuelle. Il se prend par voie orale avec une dose d'induction de 10 mg fois 2 par jour pendant 8 semaines, puis 5 mg fois 2 par jour en entretien. Dans la RCH, il a montré son efficacité en induction à la semaine 8 et en entretien à la semaine 52. En termes de rémission clinique et endoscopique. Nous pouvons souligner également son délai d'action très rapide, puisque dès le troisième jour de traitement, les patients traités constataient une baisse de la fréquence des selles et des rectorragies. Dans ce sens, cette molécule a été testée chez les malades en colite aiguë grave cortico-résistant. L'équipe de Berenstein et collaborateurs de l'Université du Michigan ont traité 40 malades, dont 24 à 30 mg par jour, et ont observé un taux de colectomie à 15% à J90. Cette étude rétrospective a été publiée dans CGAS en 2021. Les données de tolérance et les précautions d'usage de tous ces traitements sont détaillées par Mathurin Flamand dans le quatrième épisode de cette série de podcasts. Après 3 ans d'attente depuis la sortie de ce premier membre, la famille des molécules sélectives s'agrandit encore. 2 autres molécules ont été développées et toutes deux devraient être remboursées, nous l'espérons, d'ici 2023. Ces 2 molécules ciblent sélectivement JAK1. La première de ces molécules se donne par voie orale à 200 mg par jour en une seule prise par jour. Elle est déjà disponible en France dans la polyarthrite rhumatoïde. Elle a bénéficié d'essais de phase 2 et de phase 3 dans la maladie de Crohn et la RCH. À l'heure où nous parlons, novembre 2022, nous sommes en attente du remboursement en France et d'abord dans la RCH qui devrait arriver fin 2022. Là aussi, ce traitement semble efficace très rapidement, en moins d'une semaine, mais également, et c'est important de le souligner, ce traitement était plus efficace que le placebo, quel que soit le nombre de lignes de traitement reçues auparavant et quel que soit le mode d'action de ces précédents traitements. La 2e molécule se donne également en prise unique quotidienne. Son développement a été mené conjointement dans les MIKI, en rhumatologie, où il a obtenu une IMM dans l'APR, l'ASPA et le rhumatisme psoriasique, et en dermatologie pour la dermatite atopique. La dose qui devrait être adoptée dans les MIKI serait de 45 mg en induction, puis 30 mg en entretien. Les essais de phase 2 et 3 dans la maladie de Crohn et dans la RCH ont montré une efficacité de ce traitement contre placebo. Là aussi, avec une rapidité d'action notable, avec dans les essais RCH, une différence de réponse significative dès la 2e semaine de traitement. Enfin, selon une méta-analyse en réseau récemment publiée dans Lancet Gastro en 2022, qui comparait les résultats des essais randomisés de tous les traitements disponibles, ce traitement en induction dans la RCH semblait être la molécule la plus efficace, même par rapport au traitement historique. Cette constatation n'était pas retrouvée en traitement d'entretien. Bien sûr, il ne s'agit que d'une information sortie d'une méta-analyse qui a ses limites. Il faudra attendre des essais comparatifs bien menés avec une méthodologie adéquate pour tirer des conclusions réelles en termes de supériorité, d'efficacité. Cette molécule devrait être disponible également d'abord dans la RCH, puis dans la maladie de Crohn. Enfin, il faut noter que ces 3 molécules ont des métabolismes et éliminations différentes. La molécule disponible depuis 2019 un métabolisme essentiellement hépatique, contrairement à la première molécule à 200 mg par jour qui a une élimination rénale et minoritairement dans les selles. La deuxième molécule est éliminée pour 25% par voie rénale et 40% dans les selles. Ainsi, et c'est important, lorsque vous initierez un traitement ciblant les JAK, il conviendra non seulement de vérifier l'absence d'infection active ou de cancer, à l'instar des biothérapies, mais également d'adapter votre surveillance au risque d'effets secondaires qui peuvent être zona, perturbation du bilan hépatique, lipidique ou de l'agglomération formule sanguine. Pour rappel, les modalités de prescription avec le bilan thérapeutique et les principaux effets indésirables vous sont détaillés dans le podcast de Mathurin Flamand. En conclusion, nous attendons avec empressement que la famille des petites molécules s'agrandisse afin d'améliorer encore la prise en charge de nos patients. Ces deux nouvelles molécules ciblent, comme je l'ai déjà dit, sélectivement JAK1 et seront donc logiquement plus sélectives comparativement au premier traitement déjà disponible, dit PanJAK. Mais attention, même ainsi, la voie JAK-STAT reste complexe et lorsqu'elle est inhibée, fait rentrer en jeu une cascade de cytokines pouvant diminuer la sélectivité. D'autre part, nous ne disposons pas encore suffisamment de données pour affirmer qu'une molécule plus sélective sera mieux tolérée. Il faudra attendre la publication des études long terme et de vraie vie pour le savoir. Enfin, d'autres inhibiteurs de JAK sont à l'étude avec des résultats très variables d'une molécule à l'autre. Actuellement, sont en cours de développement une molécule ciblant tous les JAK, une contre les JAK3, une contre les JAK1 et TYK2, et une contre les TYK2. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre le mécanisme de ces nouveaux traitements et vous faire connaître les prochaines armes thérapeutiques qui nous permettront d'améliorer la prise en charge de nos patients.
Retrouvez prochainement l'Instant Mickey avec un nouveau podcast sur les récentes conclusions du PRAC. Ce programme est soutenu par les laboratoires Galapagos. Il est réalisé en toute indépendance et sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur de la publication, qui sont garants de l'objectivité de l'information délivrée. Ce programme a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche. Les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées par la commission d'autorisation de mise sur le marché et dans ce cas ne doivent donc pas être mises en pratique. Le docteur Ludovic Caillot déclare avoir des liens d'intérêt avec les laboratoires AbbVie, Amgen, Biogen, Celltrion, Janssen, Pfizer, Galapagos, Takeda. Une production des éditions John Libbé.